Bonjour et merci d'être présent à ce café littéraire habituel. Vous savez bien que maintenant, c'est un rendez-vous traditionnel aux Imaginales. Chaque vendredi à 15h, j'anime le café littéraire. Premier roman, c'est pas un premier roman, nouveau talent, en ce moment je me souviens du titre. Trois, quatre plutôt en général auteurs viennent présenter un premier roman. Évidemment, il y en a beaucoup, il y a plein d'auteurs de talent, mais ces quatre premiers romans que j'ai trouvés particulièrement intéressant et que j'ai souhaité vous faire découvrir et vous faire partager. Alors, parmi nous, donc, on verra quatre auteurs. Isabelle Botian, tout d'abord, qui est une vraie fausse primo-romancière, puisque, oui, c'est son premier roman, mais c'est le premier roman d'une trilogie. Mais surtout, elle a déjà une expérience de l'écriture, puisqu'elle est scénariste de bande dessinée. C'est une autre forme d'écriture, c'est pas du tout la même forme d'écriture, mais c'est de l'écriture. Ensuite, Grégory Darroza, qui nous arrive avec Sénéchal, un roman de fantasy, le premier de plusieurs romans de fantasy, plutôt de romans d'action, mais on verra, il y a plein de choses aussi à l'intérieur. Un roman qui a été remarqué par la critique aussi, comme celui d'Isabelle, puisqu'elle était membre de la sélection du prix Imaginales d'Alicia cette année. Donc, Grégory Darroza, un livre assez original, assez puissant, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis, Emmanuel Chastelière, j'en profite pour signaler que j'aurais dû le retirer parce que le deuxième roman vient de sortir, mais bon, quand on avait programmé, il n'était pas encore là. On l'a quasi en avant-première, là, il vient vraiment de sortir sur les tables. Donc, c'est quand même un primo romancier, mais ça y est, le second est arrivé, donc ça c'est plutôt positif. Et puis, nous avons parmi nous Marie-Laura Patronsa, qui est la quatrième de cette colonne. Constater qu'il y a un auteur de plus qu'on a ajouté sur cette table ronde qui était Grégory, me semble-t-il, qui est dans le programme, parce que le livre, je n'ai pas encore fini d'arriver, moi je l'ai reçu un peu récemment, et donc j'ai commencé à le lire avec beaucoup d'intérêt, et du coup, j'ai décidé, avant qu'on boucle le programme, d'ajouter, qui n'était pas initialement prévu, et puis vous avez remarqué qu'il remplace en fait Romain Lutazo, qui a pu se désister il y a une semaine pour des raisons professionnelles. Tous les écrivains ne sont pas des auteurs professionnels à temps plein, mais certains d'eux ont des chefs impitoyables. Ils n'ont rien à faire. Des festivals d'imaginaire, nous n'en dirons pas plus, et je ne livrerai pas la maquette au public, le nom de son employeur. Bien. Pour lancer ce débat, on va commencer tout simplement par un petit extrait d'Anastérie, donc, qui est paru chez ActuSF. S'appelle Potion, vous allez voir, sympa. La foule dit, oh, nous l'ancien baissa les yeux sur sa victime et constata qu'il avait raté son coup. Rinaldo déglutit. On lui avait expliqué que lors des exécutions, la tête tombait dans un seau et les troncs étaient rapidement balancés dans une litière remplie de sueur à la brigade gare. La seule fois qu'il avait fait une décapitation de près, il s'était agi d'un poulet. Il réalisa avec fascination que la quantité de sang contenue dans un corps humain n'avait aucun rapport avec celle que renfermait celui d'un volatile. Chaque battement du cœur du malheureux, chaque convulsion, chaque mouvement désespéré de ses bras tâchait un peu plus l'estrade, menaçant les bottes des officiels qui s'y tenaient. Quelqu'un vomit non loin de la plateforme. Rinaldo sentit l'odeur acide de repas de mauvaise qualité, puis sa nez. Derrière ses verres pour moquer l'ami à l'estomac fragile, se mêlant un seul nerveux de plusieurs membres de l'assistance. Un cri de rage fit entendre dans un groupe de mi-hommes. Rinaldo fit les soldats serrés de près les affranchis. Terre-mère, jura doucement Diéma en levant les yeux au ciel. L'officier de cérémonie fit un pas en direction de l'ancien, mais celui-ci, sans céder à la panique, prendit une nouvelle arrache et la bête au même endroit. La tête pencha, résista encore un peu. Le garçon relevait une nouvelle fois son arme, ses jeunes muscles fatigués tremblant sous l'effort, quand elle se détacha enfin et tomba dans le seau. Quelques secondes s'écoulèrent, durant lesquelles Rinaldo vit ses parents jeter des coups d'œil discrets à la foule. Alors, hommes, vous êtes franchis scandalisés. Les soldats se déployèrent efficacement, les animateurs lancèrent quelques chut, vite repris par leurs voisins, et petit à petit, les clameurs s'étouffèrent. Le baron la baronne se détendit, Jeannot se leva et changea un regard avec son aîné par-dessus la foule. Du sang était tombé de la hache quand le garçon l'avait soulevé pour la deuxième fois, tâchant son front, sa joue droite et le tissu de son épaule de quelques perles rouges. Il sourit calmement, et Rinaldo, qui connaissait bien, ressentit sa fierté. Il sourit à son tour, vaguement gêné, et gagné malgré lui par la satisfaction communicative de son frère. Il adressa un grand air
sourit cette fois à la foule et à donner un applaudissement s'éleva. Il accueillit avec un air bien heureux d'une sincérité dont seul semble capable les enfants du 1900. Voilà, scène d'exécution chaleureuse et sympathique. Le monde monastérie, Isabelle Bautian, vous frappez fort, c'est bien de le dire pour un premier roman.
Oui, un peu en moins pour le citage. Oui, mais bah, c'est, en fait, à la série, c'est un livre que j'avais écrit il y a plus de 10 ans et que j'avais proposé à des éditeurs qui avaient reçu des échos assez favorables à l'époque, mais voilà, qui n'avaient pas réussi à passer le cap de l'édition. On se dit, voilà, ça avait été assez encourageant pour un premier contact. Et en fait, je l'ai réécrit récemment dans le cadre du lancement de la collection Bad Wolf chez USF. Et toutes ces scènes. Donc, il y a une histoire principale qui est sur les chaque chapitre est précédé de chapitres de flashback, y compris celui-là, et qui permet de contextualiser le héros et montrer un peu d'où il vient. Et tous ces chapitres-là ont été écrits il y a pour le coup un an et demi dans le cadre de l'édition Sorin. C'est vrai que je voulais, justement, la narration de base était un peu plan-plan, un peu linéaire, et je voulais justement utiliser ces interchapitres pour dynamiser. Donc, c'est pas systématiquement des seuls chapitres comme ça.
Voilà, je vais faire une entrée en matière un peu organique, on va dire. Grégory Darroza, on va là aussi entrer dans votre roman de plein pied et on va commencer par le début tout simplement. Alors, canonnière des lourdes, la lâcheté de caractère, ce que la trahison est à la guerre, les héros n'y survivent pas. Petite citation, c'est toujours bien pour démarrer un roman. Sénéchal Gardeval, vous en conjurez vivre. Trois coups cognèrent à la porte de ma chambre. J'en sursautais tout à craque, faisant bellement grincer le bois de mon lit. J'ai l'impression qu'une main venait de m'agripper les cheveux pour me plonger la boule tout entière dans un paquet d'eau glacée. C'est Michel Gardeval. Je rentre au bout de deux. C'est donc de beugler de la sorte. Je viens. Je m'extirpais de ma courte pointe de soie et de mon matelas rembourré de plumes. Tout en réajustant les plaies, j'avais du coin de l'œil les premiers rayons de l'aube glissés sous les tapisseries qui bouchaient les rayères. J'accrodente. Comme était homme bien matinal ce jour-là, ce n'était pas là son habitude, mais à vrai dire, point était davantage son habitude de brailler le seuil de ma porte. Agrippant le trousseau de clé qui trônait sur ma table de chevet, je fis quelques pas pressés vers lui, me dirigeant vers la voie foulée d'architecte. Les cliquetis attestèrent du jeu de la serrure bien vite, presque à me souffleter à coups de bois massif, rodant de l'ouvrir. Il pénétra ma chambre sans même mon autorisation dans un état de panique démesuré. Alors, mon cher, quel trouble peut bien vous faire oublier les politesses à ce point, le piquage. Philippe, le roi vous demande dans l'instant. Tiens donc, c'est vous qui envoie pour me faire quérir. Sa majesté n'a-t-elle plus aucun acquis à son service? Eh bien, c'est Michel, c'est que tous les hommes valides et indispensables du palais ont été envoyés sur les murs de la cité. Je fronçai les sourcils. Même dans cette demi-obscurité, Robert dut s'apercevoir de mon désarroi, car il s'appressa à ajouter. C'est Michel, la ville est assiégée. Bon, ben là aussi, ça démarre très fort. Mais il est en train de dormir tranquille, donc c'est qu'a priori aucun danger n'était prévu, en tout cas, dans cette situation. Et d'un seul coup, visiblement, il y a une armée aux portes.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc, rien n'était prévu, du moins, c'est ce qu'on pense. Bien, c'est cool que ce passage soit lu, parce que c'était vraiment le morceau que j'ai écrit et que j'ai laissé pendant des mois, et je n'y ai pas touché, et je n'y ai pas écrit par-dessus. Il a fallu un certain temps avant que je me décide à écrire vraiment la suite du roman, quoi. Et je voulais commencer vraiment avec ce duo-là, ce couple, le Sénéchal et l'architecte Rodante, où ils sont vraiment, il y en a toujours un porte-clés sur l'autre, avec la oui, enfin, en gros, c'est exactement ce personnage-là. Et voilà.
Alors, là aussi, il faut que je sois assez pas de présenter les personnages, mais de présenter une situation.
Oui, alors là, ouais, je présente la situation, c'est-à-dire que je vais maintenant le vif du sujet de suite. Quoi. C'est-à-dire que je ne prépare vraiment un tome de présentation où il va doucement mettre la chose politique en place. Là, c'était de suite toc-toc-toc. D'ailleurs, la phrase, c'est trois coups cognés à la porte de ma chambre, un peu comme ça derrière les pièces de théâtre. Alors, ça commence de suite, le rideau se lève. Et donc, le jour où il va, c'était vraiment ce que je voulais pour ce roman, c'était de. D'y aller, on découvre comment le Sénéchal devra défendre sa ville au péril de sa vie parfois, avec plus ou moins de réussite aussi.
Mais le geste de guerre, on est dans un autre type d'univers, on est plutôt dans le fantastique, dans ce qu'on peut un peu qualifier votre livre ainsi. Et on va là aussi démarrer par son poursuivant n'avait pas abandonné un coup si peu. Elle hésitait entre deux voies, deux îlots de terre qui n'avaient pas encore été dévorés par les ténèbres, avançant au rythme des coups de tonnerre. À droite, à gauche, à gauche. La jeune fille réussit à se rétablir à l'instant même où l'îlot commença à s'élever, comme pour tenter d'échapper aux doigts des terres, cherchant à la retenir. Le bloc pencha, mais elle se releva rapidement et parvint à le stabiliser. Le pont qui se penche, là, le docteur de Presse avait coupé à travers les ténèbres pour mieux la prendre à revers. Plus le choix. Les ténèbres avaient avalé le dernier lopin de terre qui aurait pu l'accueillir. La jeune fille devait tenter d'atteindre le pont d'un seul bond, mais son îlot parut, lui aussi, prêt à se laisser emporter dans la nuit. Au bruit d'une impulsion désespérée en se servant de la rotation de ce bloc de roche, il se jeta dans le vide les yeux fermés. La jeune fille tomba la tête la première, mais ce fut bien la pierre qui l'accueillit durement. Elle rebondit sur les pavés et roula de l'autre côté, emportée par son élan. Elle eut à peine le temps de lever la tête sonnée avant d'apercevoir le docteur de peste de l'autre côté, incapable une fois de plus de franchir les quelques mètres laissés devant. Gagnée par un soulagement euphorique, la jeune fille fut soudain prise d'une furieuse envie de rire qui disparut bien vite, enfouie sous une peur terrible, comme pour exprimer enfin un sentiment, celui d'une frustration brute et absolue. Le docteur de peste redressa toute sa hauteur, rejeta la tête en arrière et leva sa baguette vers les cieux en hurlant le cri horrible. Un univers un peu effrayant, Emmanuel Chastelier, pour ce premier roman.
J'avoue que c'est aussi le genre d'univers qui me plaît en tant que lecteur. Et donc, effectivement, moi j'avais beaucoup de références, à la limite plus cinématographiques, dans le sens où étant pas réalisateur, ça me permettait de donner vie au film que je pouvais imaginer. Donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu. Guillermo del Toro à l'échelle du roman tout entier. Mais oui, c'est effectivement un roman assez sombre, en tout cas en apparence, mais il y a quand même quelques notes d'espoir.
On a parlé tout à l'heure d'un autre défi littéraire, justement sur les livres durs, avec des personnages qui subissent parfois des sorts difficiles, ou qui sont très menacés, qui finalement des fins quand même un minimum optimiste, on va pas dire parfaite, mais sécurisante.
Là, je n'irai pas jusqu'à dire optimiste, mais je laisse l'interprétation au lecteur.
Un univers différent avec vous. Vous avez là aussi publié premièrement. On dit souvent que les écrivains, en tout cas au début, ont un autre métier. Vous avez un métier qui n'est pas habituel pour un auteur de fantasy. Vous êtes dans la restauration. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui amène quelqu'un? Alors, voilà, on peut être fonctionnaire, on peut être. Des tas de choses. Je crois que j'ai connu des écrivains qui venaient de tous les horizons. Mais je crois qu'en 15 ans d'imaginaire, c'est la première fois qu'on accueille une auteure dont le métier, en tout cas l'un des métiers, puisque écrire, même pour sa première romance, c'est un métier, est restauratrice. Est-ce qu'il y a un rapport entre les plats qu'on m'étonne et puis l'écriture?
Alors, pour moi, il y a un vrai rapport entre créer un restaurant et écrire un livre, parce que c'est que dans les deux cas, c'est des univers. Et quand on crée un. En fait, à la base, quand même, je rappelle que j'ai quand même voulu être romancière avant d'être restauratrice. Donc, j'ai écrit depuis que je suis toute petite, j'ai fait des études littéraires, etc. Mais je suis devenue restauratrice par hasard. Et quand j'ai commencé à créer le premier restaurant, j'ai compris qu'en fait, c'était comme de créer un monde. Le roman parle de monde parallèle. Et un restaurant.
Mais alors qu'il fait frapper sa chaise sur le sol, la fille aux cheveux rouges le devance. Elle s'extrait de sa place avec agilité pour s'approcher de Maxence, qui est surpris. Tout le monde est surpris d'ailleurs. La façon dont la fille se déplace évoque la détermination tranquille d'un fauve. Maxence prend une inspiration, s'apprêtant sans doute à ajouter un commentaire, mais la fille est plus rapide. Sans changer de visage, mais avoir pris le moindre élan, elle lui assène une gifle énorme, magistrale, de haut en bas, du revers de la main. La violence du geste, son bruit, son impact résonne partout dans la salle. Les murs de la classe vacillent, tout comme les valeurs épanouies établies. Personne ne dit rien, mais tout le monde pense gifler Maxence Vidal-Daguerre. Une fille qui gifle Maxence Vidal-Daguerre, c'est comme si elle avait giflé toute la famille Vidal-Daguerre, son père et sa Ferrari jaune, sa mère et ses talons aiguillés, ses talons, ses manucures. La fille aux cheveux rouges demeure droite, sans ostentation, ni fierté. Eh bien, ça pose un personnage, dites-moi. C'est important cette scène. Pourquoi on situe tout de suite qui est cette fille aux cheveux rouges qu'on commence à découvrir dans le début du roman?
Ah oui, parce que la fille aux cheveux rouges est la nouvelle. Elle, en fait, le projet Tarpon, c'est avant tout l'histoire de deux lycéens, Louise et Pythagore. Et ils sont ici, c'est la rentrée de seconde, et une nouvelle élève débarque. Alors, c'est tous vécu ça. Ah, c'est qui la nouvelle? Ah, elle est habillée rock'n'roll, ah, elle est différente. Sauf que Forrest, elle est la nouvelle, mais pas juste. Différente parce qu'elle s'habille en cuir et qu'elle est un peu rock'n'roll. Elle est différente pour ses gestes, pour son comportement et le fait que quand elle a un problème ou qu'elle n'est pas contente avec le comportement d'un garçon, elle se lève et tout simplement lui assène une énorme gifle devant tout le monde. Ça en dit long sur le fait qu'elle ne soit pas comme les autres camarades de classe. Effectivement, on apprendra pourquoi.
C'est quand même très frappant parce que je ne sais pas si vous sentez la particularité de la scène, mais ça peut paraître une scène finalement. Relativement, je ne vais pas l'obliger, mais bon, alors ça choque, ça surprend, mais en fait, frapper quelqu'un sans que rien sur votre visage ne montre que vous allez monter en colère, que, etc., c'est une certaine froideur, vous faites le taf, vous tapez. Franchement, à part des professionnels de la violence, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Regardez les voyous, comment ils se comportent, ils commencent par tu cherches, etc., ils ont besoin de rentrer dans la violence. C'est très rare de pouvoir brusquement, et ça en dit énormément sur votre personnage.
Oui, c'est vrai, c'est tout à l'heure, parce que. C'est hyper important justement qu'elle n'ait pas fait alors, ouais, mais alors dis-moi, pourquoi t'as dit ça, et je me dis, tu me cherches. Non, juste impassible, bam! Et effectivement, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui sait faire ça, c'est parce qu'il a un vécu, parce qu'il a appris, parce qu'il vient d'ailleurs. Et ben, on s'en va dans le livre.
Absolument. Alors, voilà, quatre premiers romans, je pense qu'avec ces quelques citations et vos premières interventions, on a commencé à voir c'était des univers différents, là où est-ce qu'il est remis, ces romans différents. C'est tout simplement que c'est des premiers romans. Avant de reprendre, et je vous lirai encore un petit extrait, avant de reprendre un petit peu les thématiques que vous développez, le tour de vos romans, même si on a commencé à voir, qu'est-ce qui fait qu'on se dit un jour, on commence par Marie-Laurent, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit on va passer à l'acte et qu'on a envie de un moment, et ça y est, on veut se lancer, comment ça vient ce processus de dire, allez, j'écris mon premier roman.
Alors, pour moi, j'ai pas eu de passage à l'acte, sachant que j'écris depuis toujours. Le passage à l'acte, c'est plus allez, je l'envoie, allez, j'en parle, allez, je le dis de manière professionnelle. Parce que finalement, très souvent, je disais à mes amis, bah, je m'en vais, je vais écrire. Tout le monde savait que j'écrivais, mais c'était comme une vieille rengaine. Mais tout à coup, de passer à ok, j'envoie à un éditeur, ou là, tout à coup, c'est comment on passe à l'acte il faut le finir. Il faut accepter. C'est difficile de finir un roman et quand on en commence plein, on les laisse dans les tiroirs, on se dit j'ai rien et plus tard. Puis un jour on se dit non, celui-là vraiment, je vais le finir. Et quand on l'a fini, ben voilà, ça y est, c'est le passage direct.
Vous voyez aussi la tête, Emmanuel?
Oui, effectivement, finir un roman dans lequel on se sent, c'est vraiment très important. Après, je ne sais pas si t'avais fini ou si j'enchaîne avec. De mon côté, en fait, depuis longtemps un très gros lecteur de fantasy en général, etc. Et puis, au point, j'ai été lancé dans le site Back Internet, que certains connaissent peut-être, donc avec beaucoup de chroniques de romans. Et puis, c'est vrai qu'à force de lire les livres des autres, même si ça avait toujours trotté dans la tête, ça donne aussi envie de se frotter à ça. Et puis, il arrivait que j'ai eu 30 ans. Je ne sais pas, ça m'a donné envie de me donner un coup de pied aux fesses, on va dire, et d'essayer de sauter le pas. quoi, c'est sorti tout seul, si je puis dire. Mais, effectivement, il a fallu aller au bout, il a fallu le retravailler, etc., le reprendre, mais l'idée de base est venue assez clairement et assez vite. Donc, il fallait un déclencheur.
C'était quoi le déclencheur chez vous, Grégory Barroza? Alors, le déclencheur, pendant très longtemps, j'étais rôliste sur forum. Et du coup, le principe, c'est on se crée un personnage dans un monde défini, on écrit un petit bout d'histoire et un autre rôliste répond. Et du coup, l'histoire ça se fabrique comme ça, et l'histoire s'étend. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai écrit CRP, ces petits textes. Et le déclencheur, vraiment, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'avouer que c'était un premier roman. Pendant très longtemps, pour moi, c'était un RP qui était un peu trop long. Après, c'était une nouvelle. Après, c'est, je me suis dit, bon, c'est trop grand pour une nouvelle, bon, ça serait une nouvelle. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu l'ampleur, je me suis dit, bon, il va falloir se résoudre à se dire que c'est un roman quand même. Et quand j'ai mis le point final de ce premier tome, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle en fait? Je le garde au chaud, je l'exhibe comme ça, regardez, j'ai déjà un manuscrit, donc du coup, je l'ai envoyé. Et à ma grande surprise, on m'a dit oui. Voilà. Mais vraiment, il a fallu que c'est le coming out du premier roman. Quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, non, mais c'est un roman, bon, ça n'est pas grave, mais si, ça l'est. Finalement, ça peut pas dire qu'un coming out, pour dire qu'on est gay, un premier roman, c'est vraiment là, difficile à avouer. Mais oui, parce qu'en vous, non, non. Mais bon, on me dit, ah, enfin. Si c'est vrai que j'écrivais depuis longtemps, et puis bon, je disais, non, non, mais non, c'est bon. J'ai dit, bon, c'est bon, j'ai un roman et moderne quand même. Parce que depuis que j'en ai écrit, il faudrait peut-être. Et ça fait le mot c'est un peu différent, j'imagine, pour vous. Parce que le scénario, vous étiez déjà auteur. Mais passer du scénario de BD au roman, c'est quand même autre chose, j'imagine.
Oui, c'est comme ça. C'est vraiment pas le même processus d'écriture. Après, moi, c'est particulier. Je n'ai pas eu de déclencheur comme ça de l'écriture. J'ai toujours inventé des histoires. Enfin, je pense que même avant de les écrire, je me souviens quand j'étais gamine, j'ai inventé des histoires de Léonard Lavalade pour mes cousins. Bon, c'était déjà de la fantaisie médiévale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours ce que j'ai voulu faire du roman. Enfin, donc écrivain, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Mais la BD m'intéressait aussi. Et tout simplement, j'ai d'abord été édité en bande dessinée. Et j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivée à faire une grosse production ces dernières années en bande dessinée. Je suis arrivée tout à la fin de cette volonté d'ouverture à plein de nouveaux auteurs. Les deux premiers dossiers que j'ai faits ont été tous les deux acceptés par deux éditeurs différents. Et après, j'avais mis pied là-dedans et j'ai continué à travailler mon écriture. Et j'ai fait de la BD pendant quasiment 10 ans. Et j'avais écrit Anastérie en fait avant ça, la première version. Et en fait, en faisant de la BD, bah, j'ai rencontré Audrey Alouette et Christophe Arleston. Et on s'est aperçu qu'on avait tous les trois un roman de fantasy en plan. Et on s'est dit, enfin, c'est surtout Audrey Alouette qui nous a un peu motivés à faire ça. Elle voulait créer d'abord un label d'auto-édition, un label qualité pour faire de la fantasy. Pas forcément un théo, mais je pense qu'il y a des choses très légères. Mais avec un vrai fond sous politique sociale, ce qu'on veut. Voilà. Et elle a créé le label Babolf. C'est Docteur Who pour ceux qui suivent. Et en fait, ce label est devenu ensuite la collection de fantasy des éditions UQSF. Mais moi, ça s'est fait assez naturellement et du coup, c'était plus un retour aux sources. Parce qu'à la base, je me suis mise à faire de la BD et j'adore ça parce qu'en plus, moi, j'adore travailler sur les dialogues. Mais à la base, j'ai pas du tout une imagination visuelle, j'ai vraiment plus une imagination sur les mots. Et donc, ça m'a paradoxalement demandé beaucoup plus de travail sur moi d'écrire, de me mettre dans la mise en scène de BD que du roman. Après, le roman, c'est un travail qui m'apparaît comme plus fatigant intellectuellement, ce qui demande une concentration peut-être plus intense. Ça veut dire que c'est plus dur, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Mais bon, c'est des beaucoup plus gros volumes, c'est une liberté totale. En BD, on a beaucoup plus de contraintes déjà, parce que souvent on travaille avec, en l'occurrence, on travaille avec des dessinateurs et des coloristes. Mais il faut, on a certaines contraintes de mise en scène. Roman, on est totalement libre, il faut être aussi capable de gérer cette liberté totale sans se disperser, sans blablater, en ayant de. Voilà, c'est un retour aux sources pour moi, en fait. Deuxième extrait, donc, d'Anastérie, le roman d'Isabelle.
elle se montrait, elle s'abandonnait la plupart du temps à des activités ne nécessitant aucune force pure. Constance, elle, était puissante et entraînée. Mais son engagement semblait relever plus de la démonstration que d'une réelle abnégation. Il se souvint de ce qu'avait dit Talbot au début. Donner la parole aux hommes et aux femmes pour ne pas priver la société de leur talent. Cet argument le touchait plus que les idéaux exaltés de Constance. Vous savez comment on nous appelle en dehors ? Demanda la jeune fille à Talbot. Les capitaines des généraux. Vous avez vu comme certaines banques se taillaient un succès sur cette image ? Vous voudriez qu'on donne encore à ces gens du coin à moudre ? Vous savez comment on nous appelle à la capitale ? Rétorqua le garçon. Les recteurs. Les regards les plus éveillés se tournèrent vers lui. Il se servit un verre avant de poursuivre. Pas d'invasion depuis 30 ans. Nous sommes les enfants de la paix. Alors nous nous rabattons sur les discussions. Nous discutons sur la société et développons des théories approfondies sur la meilleure façon de la perfectionner. Une fois que nous pensons avoir abouti à une conclusion, nous la confrontons à l'opinion de ceux qui n'ont pas encore pris part au débat et nous parlons de nouveau. Tandis que les conflits sont venus ou se résolvent seuls, nous avons tellement peur de prendre une mauvaise décision que nous préférons nous cacher derrière des principes, des formules ou des diatribes qui flattent notre fierté. Il faudrait une bonne mère, c'est ça, ironisa Lou, émergeant d'une apathie éthylique. Sous l'effet de l'alcool et de l'obscurité, ses fines pupilles se dilataient comme celles d'un chat. Constance ne laissa à personne le son d'autre. Soit le confronter d'Alban. Je n'ai pas eu besoin d'une guerre pour me rendre compte de l'étendue des abominations humaines, assura-t-elle, et je n'ai pas besoin d'une invasion pour les combattre. Que savez-vous de nos vies ? Vous qui passez votre temps à manipuler votre monde à l'aide de ce verbe que vous méprisez tant. Je ne méprise pas le verbe, rétorqua tellement. Et je connais assez son pouvoir pour redouter ses effets. Je ne confonds pas non plus honneur et fierté mal placée, et si j'avais votre talent et votre intérêt pour l'épée, Constance, je participerais au tournoi. Je ne crois pas qu'un classement moyen changera quoi que ce soit au sort des déployés des citoyennes de l'Andorre. On commence à voir le monde se dessiner. Et on se rend compte, même si c'est un livre d'action, c'est un livre où il se passe beaucoup de choses, un livre extrêmement riche. Néanmoins, je vais le qualifier, mais au bon sens du terme, de livre politique, c'est-à-dire un livre où on réfléchit sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur la question du pouvoir, sur la morale. Est-ce que je me trompe dans la lecture ?
Super, c'était rien que l'action est au service de ces questionnements politiques et sociaux. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans la fantaisie. Il y en a qui sont vraiment des certains auteurs et lecteurs qui sont vraiment sur les univers, le voyage et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment surtout dans la fantaisie, c'est de se placer dans des mondes alternatifs pour pouvoir poser des questions. Qui concerne nos propres sociétés sans être embarrassé par les biais, par nos biais personnels, par nos propres convictions politiques, par nos contextes familiaux. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Gabriel Kay. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur de fantasy canadien qui est absolument merveilleux. Il a écrit un roman qui s'appelle Les Lions. Alors, lui, sa spécialité, c'est de réécrire l'histoire européenne dans des mondes de fantasy. Et Les Lions d'Alrassane, ça parle du moment où l'Espagne, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais c'est ça, l'Espagne catholique, redevient musulmane, mais c'est ça, dans ce sens-là. Et c'est pas vrai, c'est un bouquin qui veut nous appeler la catholique. Oui, je suis bête, bien sûr. personnel, même si c'est un échec très relatif, de causer du tort à la cause des femmes, et tellement elle s'oppose à elle en disant mais non, non, ça, lui pense que c'est une très mauvaise stratégie, et c'est presque une lâcheté.
C'est Michel, donc derrière le téléphone, avec un autre extrait là aussi. Edouard releva son regard vers moi, interrogateur. À quoi penses-tu? À qui tu veux dire? Gwen Fardil, l'ambassadeur nain du royaume de la Stone. Si Michel, vous vous aventurez sur un terrain dangereux, souffla le baron. Gwen Fardil est venu ici sur ordre de son roi, cet homme riche et chevelu. Il est venu en son nom s'il n'y avait pas de non-agression entre nos deux royaumes. Il serait-il logique que l'ambassadeur s'y se tape pour finalement empoisonner notre souverain? C'est parfaitement logique, répliquai-je. Quelle meilleure façon d'apporter chez Edouard que de le faire en tant qu'ami? Et chose plus étrange encore, son bonhomme est arrivé quelques jours à peine avant l'Ostres des lois. N'est-ce pas une fort bien belle coïncidence? Mais enfin, Gwen Fardil n'était pas présent lors de la réunion. Nul besoin d'être présent, baron, il suffit d'avoir accès à la cave. Et je vous rappelle que Gwen est un nain. Il passe tout le temps à boire de la cervoise ou du vin que vous fourniquez les putains, c'est dire. Ambiance. On n'en dira pas plus parce que sinon on va commencer à révéler des choses, mais on voit que. À côté de la guerre, hein, on a parlé dès le début, cette armée qui arrive, il y a aussi visiblement des dangers à l'intérieur.
Oui. Alors, il y a des dangers à l'intérieur parce qu'il y a le premier jour de siège, en fait, où ils sont réunis tous à la salle du trône pour planifier les défenses de la ville. Il y a déjà un empoisonneur qui s'est réveillé, il y a déjà un dignitaire de la cité qui meurt empoisonné. Et donc, là, cette scène que vous venez de dire, c'est le roi qui s'enferme avec le sénéchal et le chancelier pour justement essayer de mettre un nom sur le félon, le traître qui a empoisonné cela. Et on se rend compte en fait qu'il y a le sénéchal et le chancelier qui vont se tirer dans les pattes tout le temps. Parce que ce sont avant tout deux adversaires politiques. Et c'est l'une des thématiques en fait du roman de sénéchal, c'est comment des hommes politiques qui sont. Tout le temps dans l'opposition, en fait, parce que limite, on va dire, si je caricature, on va dire que le sénéchal c'est la gauche, les chanceliers c'est la droite. Et comment la droite et la gauche, tout le temps, entrent dans l'opposition, mais une opposition absolument pas constructive, alors que les vrais problèmes campent devant leur porte. Et donc, c'est l'une des thématiques, alors un peu à gros traits, quoi, c'est vraiment un peu caricaturé, mais voilà, c'est l'un des. Donc, il y a un danger, l'armée qui est devant, et un autre danger, c'est l'empoisonneur qui sévit. On n'arrive pas à le démasquer, et l'autre danger, c'est les inimitiés entre chaque personnage.
Manuel Chartelier a aussi un petit extrait encore pour rentrer un peu plus dans l'univers. J'en remercie toutes ces histoires, poursuivit-il. Qui êtes-vous pour nous poser des questions de ce genre? Ça vous amuse, c'est ça? Voir les autres souffrir vous plaît? Souffrir? Aucun de l'auberge, ça. Je n'ai pas l'impression de vous voir beaucoup souffrir. Le palefrenier de l'auberge attend de boire des bières avec un ami. Un bourreau mandaté par les plus hautes instances du comté se déplace tranquillement comme si de rien n'était. Une aubergiste est encore debout au milieu de la nuit sans souci de sa famille qui doit l'attendre. La porte de l'auberge était refermée depuis plusieurs minutes déjà, mais un vent glacé semblait s'être faufilé à l'intérieur, étouffant les sifflements des flux de bière. Pour toute réponse, le bourreau sortit de l'enveloppe, une enveloppée ornée d'un seau de cire rouge glissé sous sa veste, et la posa sur la table. J'ai rencontré le bourgmestre matin. Si je suis resté, c'est que je ne suis pas attendu ailleurs avant 3 jours, et que je pensais pouvoir m'ordre utile en attendant. Le tableau serait dit. Pour la première fois depuis qu'il avait ravagé le village, et même pour la première fois depuis longtemps, il ne parvenait pas à conserver son calme. Cet homme l'exaspérait au plus haut point. Le marchand se jura qu'il serait l'un des premiers à payer le prix de sa venue. Plus vif que l'éclair, il planta un doigt sur l'enveloppe posée sur la table du bourreau. Pourtant, c'est une évidence. Si le bourgmestre vous a demandé n'importe quoi, il y a urgent magistère. C'est parce qu'il ne fait plus confiance au docteur de peste et retire la présence des inquisiteurs. Des inquisiteurs, flamme-t-il tout à coup, étonnamment vif, mais les inquisiteurs ne sont là que quand? Oui, les inquisiteurs ne se déplacent que quand il est question de sorcellerie, affirma le camelot. Je vous laisse imaginer l'origine de cette étrange épidémie, n'est-ce pas? De toute évidence, votre bourgmestre a sa petite idée sur la question. L'aubergiste se figea sur place. Le marchand n'avait pas bougé d'un pouce, cependant, on tournait la tête dans sa direction. Une fois de plus, son regard perçant. À le faire défaillir, une impression aussitôt démentie par son ton suave. Mais j'aurais une proposition à vous soumettre, on ne vous dira pas laquelle. Alors, Emmanuel, la gestionnaire, c'est toujours vraiment inquiétant, votre village.
Oui, c'est vrai que c'est.
passé, et puis l'action actuelle du roman. En tout cas, le village est un, j'aime pas dire un personnage à part entière, parce que enfin, j'aime beaucoup les univers, enfin, ou les livres univers, où le cadre a une vraie importance. Autant je préfère quand même que les personnages n'aient pas l'air d'être des marionnettes suspendues à un fil. Sauf que là, évidemment, c'est vrai que l'histoire va tourner autour de comment justement se détacher du marionnettiste qui se cache derrière tout ça. Et c'est vrai que la dimension inquiétante du roman court à travers, peu importe les époques, mais court à travers tout le roman. Et ça, j'y tenais beaucoup parce que c'est plus que l'horreur, on va dire, c'est vraiment l'angoisse, ou ça, le sentiment angoissant que j'ai aimé distiller tout au long du roman.
C'est le village, c'est ça en quelque sorte.
Oui, j'y suis en plein dedans quand j'écris. C'est vraiment le côté, comme je disais tout à l'heure, le côté un peu cinématographique où je pose ma caméra ici ou là et après je laisse tourner ce qui se passe dans ma tête au gré des scènes que je dois monter. Donc je fais réalisateur, monteur, j'essaie de cumuler toutes les fonctions.
Et vous n'êtes pas le numéro 6, même au village, vous êtes le numéro 1 parce que vous êtes l'auteur.
C'est ça, je ne suis pas non plus le prisonnier.
Très bien. En tout cas, les personnages le sont un peu parfois. On verra ça quand on découvrira de façon plus approfondie le roman. C'est aussi pour ça que nos auteurs sont là. Dernier extrait, deuxième extrait de Marie-Landa Vacoussin pour son roman. Ils éteignirent une bâtisse blanche autour de laquelle courent des passerelles. Les escaliers en fer forgé, semblables aux échelles de secours des films américains, permettent de passer d'une passerelle à l'autre. C'est la cité étudiante. Foresta tire une échelle coulissante et commence à grimper. Je n'ai pas envie de passer par l'intérieur, il y a des gens que je ne veux pas croiser ce matin. Au troisième étage, Pythagore se fiche en découvrant un astre rouge qui brille à l'horizon comme un deuxième soleil. Foresta commence, elle se lève de nuit. La journée grâce l'horizon, et le soir, elle monte dans le ciel qui triple de volume. Ils entrent dans la chambre de Foresta par la fenêtre. Celle-ci est très sommaire, un lit défait, un bureau avec quelques papiers, une grande étagère murale, exposant des instruments hétéroclites en métal cuivré, des livres, des cordes. J'avais des blouses quelque part. Ce serait mieux qu'on les porte pour circuler dans les laboratoires. Tandis que Foresta fouille dans ses affaires, Pythagore parcourt la chambre du regard et remarque un objet familier, le sac à dos rouge et jaune de Louise. Jusqu'à présent, seul le récit de Foresta faisait état de la présence de Louise dans l'autre monde. Maintenant, l'objet qu'elle a sous les yeux rend son passage manifeste. Au mur sont affichés les croquis des cartes géographiques. Pete reste en arrêt dans ce qui semble être une carte du monde. Il ressemble à celle qu'ils étudient en cours. Couleur, légende, flèche, pointillée, à ceci près qu'elle ne présente pas du tout la même réalité. Arcane au sud et le Mini à l'ouest forment de gros continents plutôt larges, dont la forme est facilement reproductible. La pyramide, au nord, est, lui aussi, large et étalée, mais plus ramassée dans sa hauteur. Ses contours sont découpés d'une multitude de fjords. En revanche, la piste au nord-est est très allongée sur un axe nord-sud et sa forme est un peu distordue. Elle se resserre, s'évase, rétrécit à nouveau pour s'élargir une dernière fois. Enfin, le Goyam est le continent le plus bizarre qui soit. Il est entièrement formé d'îles, des dizaines d'îles, plus ou moins grosses, qui se dispersent depuis le centre de la carte. La mer est figurée en bleu. Elle occupe la plus grande partie de l'espace et notamment toute la partie centrale au milieu des continents. On pourrait poursuivre la description, mais vous avez bien compris que là, on a plus dans le monde réel de l'extrait initial, celui scolaire, classique, mais on est dans un univers parallèle, on n'en dira pas beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui vous a amené, Marie-Landa Vacoussin, à, dans votre roman, mettre en parallèle cet univers réaliste, très ancré dans la scolarité de lycéen classique, voilà, lambda, et puis un univers différent.
En fait, ce que je voulais, c'est que, en lisant ce livre, les gens s'imaginent que ça pourrait leur arriver à eux. Enfin, parce qu'on a ce monde imaginaire que, quand j'étais petite, je m'étais créé un monde imaginaire, et dans lequel je passais tout mon temps avec ma sœur. On passait du temps dans le salon, et bam, on passait dans le monde imaginaire, on était dans la cuisine, et bam, on y
commencé à voir se dessiner quatre univers très différents, quatre romanciers très différents, quatre façons de raconter et de mettre en scène, de structurer les récits. J'espère que ces extraits et la façon dont nos auteurs vous ont répondu, ont un peu expliqué comment ils étaient rentrés dans cette publication d'un premier roman, qu'est-ce qu'ils voulaient un petit peu développer comme univers. Vous avez bien vu que ces quatre univers très différents. Vous avez compris que s'ils sont rassemblés ici, c'est que je trouvais que tous les quatre, les auteurs et les univers, sont passionnants. Vous savez bien que vous imaginez que depuis 15 ans, c'est le festival des belles rencontres. Les premiers romans, c'est toujours de belles rencontres, bien sûr, pour les écrivains qui commencent à rencontrer un éditeur puis leur public, mais aussi pour ceux et celles qui aiment les livres, qui parfois ont fini par en faire leur métier et qui font de belles rencontres quand ils trouvent de beaux et de belles écrivaines. Je crois qu'aujourd'hui, en un mot, on a quatre univers, parfois même des séries qui démarrent, des trilogies. On a la possibilité de découvrir ces auteurs. Je voulais simplement, avant de conclure, leur donner la parole pour un dernier mot. C'est quoi pour vous, Emmanuel Chastenière, devenir un écrivain?
Devenir un écrivain. Merci de me laisser commencer.
Ça fait partie du métier.
J'apprends petit à petit. Devenir un écrivain, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, d'avoir fait ça par étapes, dans le sens où mon métier principal, c'est traducteur. Donc c'est déjà essayer de rendre justice au roman des autres. Et puis c'est vrai qu'après, pour moi, oui, c'est un parcours semé d'embûches, je voudrais dire, de devenir auteur. Mais en tout cas, c'est aussi un rêve, tout simplement, parce que c'était une de mes ambitions de jeunesse. Et pour l'instant, d'ailleurs, je remercie au passage, encore une fois, les Imaginales pour cette invitation. Et puis, c'est vrai que c'est un rêve que j'espère prolonger sur la durée, puisque je trouve que c'est important aussi de construire un univers, justement, même en changeant parfois totalement d'ambiance d'un ouvrage à l'autre, mais essayer de se construire un parcours. Mais avant tout, oui, je dirais que c'est pour moi un rêve qui est en train de prendre lentement réalité. Voilà.
Isabelle Bautian, vous allez continuer à faire du scénariste BD, ou alors vraiment vous allez être une romancière de fantasy à plein de temps?
Non, je vais continuer à faire les deux. Alors, la réponse cynique, c'est que la BD s'appelle vachement mieux que le roman. Mais je pense que même sans ça, même si ce n'était pas le cas, je ferais peut-être moins de BD que ce que je vais en faire, mais je continuerai à en faire parce qu'il y a certaines idées que j'ai qui, je pense, seraient plus intéressantes de traiter en bande dessinée sur un mode plus visuel, parce que mon écriture est quand même assez intellectuelle. Et je pense que certains univers seraient plus intéressants en BD ou ne vaudrait pas le coup traité en roman. Et pour moi, ça a été, être écrivain, je pense que ça a toujours été quelque chose d'assez naturel. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi, même à une époque de ma vie où je ne pensais pas du tout être publié. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur ce qu'il faut faire écrivain, c'était juste de finir le livre, en fait. Parce que je pense que tout le monde est capable d'avoir des idées comme ça. De l'autre côté du spectre, il y a beaucoup de gens qui écrivent très bien, mais qui ne sont pas capables de mener quelque chose à bout. Et je pense que quand on est un éditeur ou pas, ce qui fait l'écrivain, c'est cette capacité de finir, cette capacité de ne pas attendre que la sainte inspiration nous tombe dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, aujourd'hui je ne le sens pas, j'ai pas d'idée, bon, après l'angoisse de la page blanche, ça arrive à des tas de gens, mais juste être capable de dépasser ça, les livres ne vont pas s'écrire tout seul, et il ne faut pas se dire j'ai une nouvelle super idée, je vais commencer plutôt celle-là, mais toutes les idées sont super tant que vous n'avez pas commencé à les mettre. Les mettre en pratique, il faut être capable de les mettre en pratique, d'écrire même quand on n'a pas envie d'écrire. Et des fois, on est surpris de ce qu'on produit dans ces moments-là. Parce que justement, ça nous force à sortir un peu de notre zone de confort. Il faut être capable de se dire moi, je me mets à mon clavier ou je prends mon stylo, je vais écrire un truc, ce sera peut-être de la dôme. Souvent, on ne s'en est pas. Et même si ça en est, c'est pas très compliqué d'écrire des phrases qui n'étaient pas terribles parce qu'on n'était pas en forme, mais on est parfois très surpris de ce qui arrive en ces moments-là. Je pense qu'il faut écrire, c'est juste la capacité à aller au bout de la chose. Voilà.
Je vois où j'ai la tête, Grégory Larosa, vous avez la même vision de l'écrivain maintenant que vous l'avez commencé à
comprendre. Je suis complètement d'accord, oui. Enfin, pour moi, il faut vraiment se faire mal. Enfin, j'arrive pas à écrire un texte si j'ai pas mal de base, quoi. Au moins,
on m'a souvent dit j'écris pour c'est un exutoire, c'est pour aller mieux. Moi, pas du tout. J'écris pour me faire mal. Quoi. Enfin, je me sers de ma douleur et je l'agis que sur le papier. Quoi. Enfin, je vis ça comme ça. Alors, après, bon, ça se perçoit, ça se perçoit pas, mais y a des textes aussi que je ne ferai jamais lire parce qu'ils sont vraiment. Ils vont trop loin. Quoi. Et je sais qu'il y a un texte en particulier que j'avais écrit en pleine nuit. Pour avoir mal au coucher, j'avais fait des cauchemars. Quoi. Enfin, c'est un recherché tellement loin que je pense qu'il faut se faire mal quand on écrit.
J'ai envie de conclure sur ce petit tour de table. C'est quoi devenir écrivain quand on franchit le pas et qu'on voit son premier livre publié par des lors de la vacance?
En fait, je suis un peu d'accord avec tout ce qui se dit, finir le livre, quel livre on n'a pas envie. Mais je dirais que pour moi, c'était vraiment ce monde imaginaire qu'on avait créé dans l'enfance et qui m'a toujours accompagné. C'est que vous le sortir et le ramener dans le concret. C'est comme si j'avais vraiment été là-haut, un nébuleux et rien. Mais là, et pour ça, il faut y aller tous les jours, pour ça, il faut se faire un peu mal, pour ça, il faut finir le livre, pour ça, il faut accepter d'écrire de mauvaises phrases un jour. Il faut ramener quelque chose qui n'existe pas ou enfin, qui existe, mais on ne sait pas où, et le forcer à exister là. Et après, il existe là.
Voilà, c'est peut-être finalement une belle conclusion pour notre café littéraire, rendre les choses réelles quelque part. Alors, c'est avec quatre livres, je vous recommande donc Isabelle Bottian, Anastérie, qui est paru aux éditions ActuSF. Ensuite, Sénéchal, Grégory Darrosin, aux éditions Demos. Oui, les premiers auteurs de romans font vraiment tout ici. Emmanuel Chastelière, Le Village, à l'âge révélateur, aux éditions de l'Instant, mais il y a aussi des beaux visages, donc il y a moins beau dans ce roman. Le Village de Manuel Chastelière, aux éditions de l'Instant, un excellent petit ouvrage qui vient de nous arriver et qui a aussi publié une auteur américaine dont on parlera avec beaucoup d'intérêt, Sophia Samatar. Et puis, pour terminer, Marie-Laure Vaconsa, La fille aux cheveux rouges, qui est le premier tome de Starpoint, le projet Starpoint, une série de trilogie de. On va dire quoi? C'est un peu de la science-fiction plutôt, quelque part, univers parallèle. Enfin, oui.
C'est vrai qu'on y vient par la science, la science est très importante, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une des explications de l'autre monde. Donc, oui, on peut dire un peu. Entre fantasy, science-fiction, monde réel.
Voilà, un peu de ça. On a tout ici, on a l'ensemble des genres de l'imaginaire, du fantastique, de la SF, de la fantasy, mais aussi beaucoup de liberté, beaucoup de talent, beaucoup de passion. Et pour vous qui allez acheter le roman, alors fascinez dans les instants qui suivent, beaucoup de plaisir.